France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'urgence et ses tyrannies, voilà notre sujet cette semaine. Aujourd'hui, travail pressé, travail gâché, point d'interrogation. Cette série sur l'urgence est aussi un clin d'œil au festival Cité Philo de Lille qui existe depuis de nombreuses années et accueille toujours un public nombreux. Cette année, il évoque l'urgence, sujet riche auquel nous avons choisi de réfléchir nous aussi. On prête à Talleyrand cette formule « Doucement, on est pressé ». Cela laisse entendre que l'urgence exige un geste sûr, donc réfléchi, au lieu de se précipiter et de perdre du temps puisqu'il faudra se reprendre. L'urgence, c'est peut-être la situation où avoir du métier, comme on dit, c'est-à-dire tout à la fois de l'intuition, de l'expérience et de la maîtrise, est décisif. C'est peut-être dans ces moments-là que le travail est sublimé. Certes, mais l'urgence au travail très souvent n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens d'évoquer. Elle ressemble à une hâte brouillonne qui révèle non pas un moment exceptionnel, mais un rythme assommant, engloutissant le quotidien. Ce travail pressé, subi, douloureux, serait-il le fond de ce que plusieurs philosophes appellent l'aliénation ? Comment pourrait-on instaurer des durées plus choisies dans le cadre d'un travail collectif, comme l'est souvent le travail ? Sachant que les temporalités des uns risquent toujours de peser sur celles des autres. Bonjour Corinne Godard.
Bonjour.
Vous êtes ergonome et vous avez publié aux éditions Les Petits Matins « Le travail pressé pour une écologie des temps de travail », livre qui a reçu le prix Penser le travail en 2023. Ce prix a été fondé par Sciences Po et le journal Le Monde. Bonjour Céline Marty.
Bonjour.
Vous avez exercé plusieurs années le métier de professeur de philosophie en classe de terminale. Aujourd'hui, vous êtes chercheuse rattachée à l'Université de Besançon et spécialiste du penseur du XXe siècle, André Gorce, qui a beaucoup réfléchi aux manières de libérer le temps, je cite, dans le travail. Et bonjour Katia Genel.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des penseurs de l'école de Francfort, première génération, Adorno, Marcuse, Horkheimer et d'autres, et génération suivante, notamment Axel Honneth. Vous connaissez excellemment Katia Genel, l'œuvre de Hannah Arendt aussi, vous lui avez consacré un ouvrage chez Belin, et votre dernier livre, qui vient de sortir aux éditions Klinksic, reprend la notion arendtienne de « labor », puisqu'elle a écrit ça en anglais, habituellement traduite par travail, mais que vous choisissez de traduire par labeur, pour faire entendre toutes ces choses pénibles qu'Arendt soulignait là, et qu'il n'est pas facile d'abolir. Alors pour vous, cependant, tout n'est pas uniquement négatif dans cette notion de labeur, vous nous expliquerez, et nous verrons comment vous pourriez, à partir de vos analyses, penser le problème de l'urgence au travail. Pour commencer notre conversation, je vous propose d'entendre un extrait du reportage de Cache Investigation sur France 2 de 2017 qui avait fait du bruit à l'époque. Cela portait sur les cadences des salariés de l'entreprise Lidl, notamment ces salariés appelés les préparateurs qui reçoivent des commandes vocales pour savoir quelles marchandises chercher dans l'entrepôt.
La machine indique l'allée où le préparateur doit se rendre.
Allée 63, merci.
Puis, le nombre de colis à porter.
Combien ?
Un colis. Le préparateur lui répond quand il a fini de charger.
Ah, ok.
La machine enchaîne avec l'ordre suivant. Bon, vous avez compris le principe. Alors, pendant 30 secondes, nous vous proposons Vie ma vie de préparateur de commandes.
07.
Bien.
Ah, ok.
9,89.
7,9. 7,9. 7,9.
Très bien.
Ah, ok.
9,83.
9,1.
Prenez 2.
2, ok.
9,98.
Vous en avez déjà assez, hein? Pour le salarié, c'est 7 heures par jour.
Corinne Godard, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le travail pressé ». Est-ce un bon exemple, celui de Lidl, tel que nous venons de l'entendre dans ce reportage de Cache Investigation ?
Alors oui, c'est un bon exemple. Là, on a des systèmes sur les plateformes pour la préparation de commandes, où on a des personnes qui sont avec un système de voice speaking qui leur dit où aller chercher, dans quel rayon, comment construire une palette, et le temps que ça doit prendre. Mais finalement, ce qu'on écoute ici pour des préparateurs, cette forme de travail pressé est présente dans de nombreux métiers, que ce soit un ouvrier du BTP, une aide-soignante dans un service de gérontologie, un technicien dans une administration centrale, un ouvrier de l'automobile. On a ce qu'on a voulu nommer avec mon collègue Serge Volkov dans le travail pressé, un modèle de la hâte qui finalement devient un principe d'organisation dans de très très nombreuses situations professionnelles.
Qu'est-ce que l'ergonomie, qui est votre spécialité, apporte à ce problème? Quelles solutions apporte-t-elle? Quelles sont les voies que vous explorez comme ergonome?
Bon, alors avant d'apporter des solutions, il faut essayer de comprendre. Et même si ce modèle de la hâte peut être, on le retrouve dans de nombreuses situations professionnelles, ce modèle se pose toujours dans des situations particulières. Et donc l'idée, c'est de comprendre le travail pour le transformer. Et la boîte à outils de l'ergonome est d'aller voir ce qui se passe vraiment, ce qu'on appelle l'activité, une notion qu'on partage avec certains psychologues du travail et de sociologues du travail. Donc d'essayer de comprendre pourquoi il existe toujours un décalage entre le travail tel qu'il est prescrit et tel qu'il se pratique, et comment on peut mettre au travail ce décalage pour essayer de penser un travail qui évite d'avoir des problématiques de santé et qui permette quand même une expression de son expérience, de ses compétences et de ses savoir-faire.
Donc, parce que pour moi, l'ergonomie, peut-être pour beaucoup de gens, c'est effectivement l'environnement matériel, faire que les ordinateurs par rapport aux chaises et aux bureaux soient bien placés pour qu'on ne se fasse pas mal en permanence à regarder des heures par jour dans une mauvaise position son ordinateur. Ce sont donc des sièges, des comportements. Mais franchement, par rapport au problème que nous venons d'évoquer, qui est celui de la cadence, aller chercher dans des entrepôts, bon, évidemment ça exige d'être beaucoup debout, d'autres métiers l'exigent. Qu'est-ce qu'un ergonome peut dire sur le problème, je dirais, des cadences dans des mondes qui ressemblent à un petit peu, on va en parler, au monde des ouvriers du travail à la chaîne, dont on parle moins aujourd'hui, mais il y a eu un grand moment où cette question était centrale, parce que ça pose des problèmes de souffrance psychique, on va le dire,
oui, c'est ça.
Plus simplement comme ça.
La répétition des gestes, on le sait depuis maintenant très longtemps, ça produit de la mauvaise santé. On parle de troubles musculo-squelettiques, mais vous évoquiez aussi un registre de facteurs psychosociaux de risque. Donc ça nous atteint dans diverses dimensions de notre santé. Donc la question, c'est de savoir si le travail doit abîmer ou au contraire, est-ce qu'il peut être perçu comme un opérateur possible de santé. Ça reste une question tout à fait centrale, et d'autant plus quand ce modèle de la hâte est présent. Et puis ça pose aussi la question de ce que c'est que de faire un travail de qualité, de bien faire son travail, et comment ça peut résonner avec ses propres expériences, ses ressources biographiques, la construction de ses savoir-faire, et comment ils peuvent être mise en avant et reconnue par des formes d'organisation du travail. Donc, mettre au jour cette activité, c'est proposer de pouvoir les inviter à la table de la conception de l'organisation du travail.
Céline Marty, vous travaillez sur André Gorz, qui a beaucoup de choses à dire sur le travail et la souffrance qu'il génère souvent dans nos sociétés capitalistes. C'est exactement au cœur du problème qu'évoque Gorz. Si je puis me permettre de vous poser une question un peu personnelle, quelles sont les souffrances autour de vous qui vous ont conduite à travailler sur Gorz? Des choses comme celles qu'on vient d'entendre dans ce reportage, un rapport à la mémoire ouvrière, d'autres choses. Est-ce que c'est la question, par exemple, de l'urgence ou pas vraiment?
Ce que je trouve intéressant dans la critique que Gore s'adresse au travail, c'est de demander pourquoi le travail est pressé, pourquoi, d'où viennent les ordres finalement. Et donc Gore formule une critique du capitalisme en rappelant d'où viennent les impératifs de productivité, puisque là dans le cas de Lidl, ils ne sont pas librement choisis par les salariés, mais ils sont bien subis parce que il y a des contraintes économiques qui s'imposent dans leur activité. Et donc Gore cible, propose à la fois cette critique du capitalisme et il la relie aux enjeux écologiques. Et donc, ce qui m'a intéressé dans la pensée de Gorce, c'était que précisément, c'était un auteur qui pensait la critique du travail avec l'enjeu écologique contemporain dès les années 70. Et votre titre est bien choisi aujourd'hui parce que travail pressé, travail gâché, ça veut aussi dire du travail gaspillé, du travail que on aurait pu ne pas faire, du travail qu'on aurait pu faire différemment, et donc une mauvaise satisfaction des besoins et un gâchis des ressources aussi. Donc sur le plan personnel, c'est cet enjeu de l'écologie qui m'a intéressée dans la critique de Gorce aussi, parce qu'il nous amène à penser que le travail, c'est toujours une activité matérielle qui consomme des ressources, qui génère des déchets, des externalités négatives, comme on dit, et qu'il faut penser les deux ensemble, parce que notre crise écologique est une crise de surproduction aussi, de gâchis de travail.
Alors, ce que je vous propose, qu'on va parler d'Arendt, d'Anna Arendt un peu après, on va revenir à la question de l'urgence, qui est bien notre sujet, le sujet de notre série. Mais allons au bout de ce développement en écoutant André Gorce lui-même, qui a un lien fort au marxisme et à l'existentialisme. Il a été fort apprécié par Sartre. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit là, en 1994, à propos du fait que le travail prend au travailleur et ne lui donne jamais vraiment l'occasion de donner. Écoutez.
L'emploi aujourd'hui ne permet pas aux gens de donner. On leur prend. Si vous êtes employé chez McDonald's, 70% de temps partiel, avec une intensité de travail épouvantable, vous n'avez pas le moyen de donner. On vous prend. C'est-à-dire l'employeur vous prend le maximum dans le minimum de temps possible, par unité de temps. C'est pourquoi la plupart, une grande majorité de ceux qui ont un emploi, qu'ils soient intermittents, qu'ils soient réguliers, ne placent plus aujourd'hui le sens de leur vie dans cet emploi.
C'est le problème du sens de sa vie qui est posé là. Et finalement, je me demande, mais c'est vous qui me répondrez, si ce n'est pas un problème beaucoup plus global que la seule question du travail, des cadences, de l'ergonomie, de la souffrance, s'il n'y a pas un problème qui concerne l'ensemble du système de notre société. Écoutez-le encore un peu, André Gorce, et c'était cette fois-ci en 1990, dans un documentaire de 90 qui lui était consacré.
Nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement, et d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant. Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, une vie personnelle, conviviale, de citoyen, de militant, de parent très développée, mais aussi plusieurs vies successives. Le travail, ce n'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives, et qui sont des activités qui ne se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré. Donc que le droit de tout citoyen, si droit de la personne il doit y avoir, doit comporter le droit de ne pas travailler pendant de longues périodes tout en continuant d'être payé. Parce que cela est essentiel au développement de la personne. Et tout cela est possible avec le degré de richesse, de développement que nous avons atteint aujourd'hui. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de réduire le revenu en réduisant la durée du travail.
Céline Marty, on voit bien que dès qu'on touche la question du travail, par exemple chez un auteur aussi profond qu'André Gorce, on pose le problème du statut du travail dans la vie, dans l'ensemble de la société. Et donc nous arrivons aujourd'hui avec une question qui est le problème de l'urgence permanente au travail, du travail pressé. Mais au fond, c'est un problème qui concerne l'ensemble de la société. Est-ce que néanmoins, vous considérez qu'André Gors a quelque chose de précis à dire sur les urgences permanentes au travail ?
Oui, tout à fait, puisque son idéal d'émancipation qu'il construit se décline en trois temps. D'abord, l'autogestion au travail, puis l'autogestion de la vie, l'autogestion des besoins dans une perspective écologique. Et ensuite, à partir des années 80, il va parler d'autogestion du temps, et donc de l'importance de pouvoir choisir nos temps de vie, de pouvoir choisir les temps qu'on consacre à l'emploi, à l'activité oui. professionnelle rémunérée, mais aussi l'articulation avec nos temps personnels, nos temps sociaux, nos temps dédiés à d'autres activités que l'emploi. Et donc, là, quand il propose de décorréler le revenu du temps d'emploi, de la durée officielle de l'activité de travail, c'est aussi pour permettre justement de passer d'une activité à une autre selon les contraintes aussi de la vie, selon les temps que nous demande la vie. Et donc, par exemple, quand vous êtes dans une situation de parentalité, vous allez avoir besoin de plus de temps à dédier à votre vie familiale, etc. Quand vous avez une situation d'engagement militant, social, politique, vous allez dédier plus de temps à cela. Et l'idée de Gors, c'est que on peut transformer notre rapport au temps de travail pour permettre ces autres activités-là et ces autres engagements qui nous permettent d'exister socialement, qui nous nourrissent sur le plan de nos compétences, de nos qualités humaines, sociales aussi. Et donc, c'est finalement, il faut sortir de la dictature du temps unique de l'activité professionnelle, de l'emploi.
Est-ce que vous pourriez nous préciser ce que ça veut dire l'autogestion du temps pour Gors et peut-être pour vous au travail ? Puisqu'évidemment, si par exemple, quand une tâche nous intéresse et qu'on désire lui consacrer plus de temps, pour être concret, nous sommes souvent dans une chaîne au travail. Ça peut peser sur quelqu'un d'autre qui a besoin d'avoir plus vite le résultat du travail de la première personne. L'autogestion, ça pose malgré tout la question de l'organisation et du consentement collectif à ce que chacun individualise son rapport à des tâches collectives. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre comment ça pourrait marcher ?
Oui, tout à fait. Et c'est pour cela qu'en fait, on a besoin d'un temps collectif de délibération sur l'organisation du travail et l'organisation du temps de travail. C'est ce que disait aussi Corinne tout à l'heure, un temps de réflexion sur la conception du travail et de pourquoi on a besoin les uns des autres et comment on s'organise collectivement, justement pour ne pas mettre en position de difficulté les collègues. Et donc, Gors prenait l'exemple d'un magasin à Munich où, en début de mois, les employés réfléchissaient ensemble aux nécessités de service, aux contraintes d'emploi du temps de chacun sur le mois à venir et comment ils allaient s'arranger, en fait, sur le planning à venir. Et de ce temps de délibération sur le travail, il est important parce qu'il permet de réfléchir aux nécessités de service, aux besoins de temps de chacun, aux contraintes de chacun et finalement d'en discuter collectivement plutôt que ça se fasse de façon unilatérale avec son manager.
Donc c'est la discussion.
Oui, tout à fait.
C'est la délibération, pourrait-on quasiment dire. Et ça marche ?
Ça marche. Il faudrait, c'est assez rare comme choix d'organisation du travail, puisque actuellement on est plutôt dans un système où on a un temps de travail qui est très régulier a priori, avec la durée légale du temps de travail, ou bien des situations de temps partiel, ou bien une situation de forfait jour où vous êtes pour les cadres à disponibilité de l'employeur sur toute la journée et vous êtes pseudo libre d'organiser votre temps, mais finalement en fait vous travaillez beaucoup plus que vos 35 heures semaine. Et donc, actuellement, nous ne sommes pas dans une situation où nous pouvons autogérer le temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les situations, notamment dans les coopératives, donc dans ces sociétés, dans ces organisations qui sont organisées, qui sont possédées par les salariés eux-mêmes, qui ont plus de temps justement pour discuter sur l'organisation du travail, parce qu'elle n'est pas dictée nécessairement par un manager, une hiérarchie. Et donc, c'est finalement, est-ce que ça marche ? C'est déjà, ce n'est pas le cas actuellement. Mais c'est des discussions qu'il y a en cours quand vous avez des statuts plus démocratiques d'organisation du travail.
Et donc je précise qu'André Gors, né en 1923 et mort en 2007, Nous ne pouvons pas donc l'avoir face à nous pour nous préciser tout cela, mais je trouve que vous êtes une très bonne porte-voix.
J'ai fait ma thèse sur lui et oui, j'en ai tiré deux ouvrages.
Oui, oui, deux ouvrages. Toutes les références sont bien données sur notre site. Alors, quant à Arendt, elle est née en 1906 et elle est morte à la fin des années 1970, Katia Genel. Arendt avait un rapport complexe, mais non nul, au marxisme. Elle avait lu Marx, elle n'était pas d'accord avec tout. Comment aborde-t-elle ce que vous appelez le labeur, pour traduire son mot « labor », Katia Genel ? Et est-ce que vous pensez que le problème du temps, de la durée, des cadences, de l'urgence permanente, du travail pressé, sont des bonnes questions pour Hannah Arendt ?
Alors, est-ce que je peux revenir d'abord un tout petit peu sur ce qui a été, ce qu'on a entendu, et donc avant d'aborder Hannah Arendt un peu plus en détail. Moi, cet exemple du préparateur de commande et puis cette réflexion, en fait, ça me fait penser que d'une part, on a l'impression qu'effectivement le travail travail pressé qu'on attribuait en général plutôt à une cadence imposée par la machine typique du travail à la chaîne est encore effectivement très présent dans la société. Donc il n'y a pas d'idée d'un dépassement ou d'une transformation de ces conditions de travail. Et ça interroge aussi peut-être nous en tant que consommateurs, enfin ceux qui consomment, qui précisément, enfin ça interpelle la demande de ce type de travail qu'on impose en fait aux préparateurs de commandes en voulant par exemple pour Amazon être livré ou des choses comme ça. Et donc il y a vraiment l'idée d'un système en fait. Et la question c'est, ce travail pressé, il n'est pas du tout resté localisé en fait dans un type de production spécifique. Il est étendu dans la société. Il fait système de la production à la consommation, ce qui est aussi un des aspects de ce que fait Arendt. Et la question ce serait qui nous presse, enfin qui menace notre autonomie à la fois en tant que travailleur et peut-être la nouveauté du travail pressé aujourd'hui, ce serait qui nous presse en tant que consommateur aussi. Enfin, on a l'impression que le travail pressé n'est plus du tout circonscrit au travail à la chaîne, mais qu'on est devenu nous-mêmes, pour reprendre un terme d'Adorno, on est devenu nous-mêmes des entrepreneurs de nous-mêmes. Enfin, le moi et l'entrepreneur de soi, on en vient même à se presser soi-même, à se transformer en produit.
Alors, c'est intéressant parce que ce que vous... D'abord, vous touchez au problème du lien entre production et consommation qui est assez important aussi pour Arendt, vous allez nous expliquer. Si on travaille, c'est parce qu'on a besoin de consommer, il y a des besoins de l'existence humaine qui doivent être remplis. C'est un domaine de l'existence qui a à voir avec l'auto-entretien de la vie, donc ça vous allez bien nous expliquer. Mais ce que je trouve aussi important, c'est que le travail pressé, on a tendance à aller chercher des solutions pratiques chez les ergonomes, à aller à envisager des conflits et des revendications syndicales, par exemple, pour une meilleure organisation en consultant les salariés davantage. On a tendance à aller chercher la loi, l'État, pour réguler les conditions de travail. Et vous, Katia Genel, vous nous dites qu'il faudrait peut-être aller chercher une prise de conscience de ceux qui consomment.
Enfin, oui, là, c'était vraiment juste une idée. J'ai pas de thèse forte sur la question, mais c'était simplement parce que, effectivement, voir un type de travail aussi abrutissant, en fait, on avait l'impression que le travail prescrit était complètement, enfin, avait étouffé toute forme de travail, que là, on pouvait plus chercher de liberté dans le travail. Donc, on peut se demander ce qui soutient ce système, et c'est effectivement une forme de consommation.
Alors Arendt, maintenant.
Mais alors Arendt, j'ai voulu un peu sortir Arendt du mépris dans lequel justement on la tenait en tant que penseuse du travail, parce que on considérait qu'Arendt avait une forme de, enfin dévalorisait le travail, le méprisait en quelque sorte et l'oubliait, parce que elle a cette triade très connue, labor, work et action. Et qui est traduite généralement par travail, œuvre et action. Et du coup, évidemment, si on pense que quand elle parle de labor, elle parle de travail et uniquement là, eh ben, elle a une conception extrêmement réductrice du travail. On a l'impression que c'est un travail borné à la reproduction de la vie. C'est pas un travail qui produit des biens. C'est pas un travail qui mobilise des instruments. Et c'est encore loin de l'action. Et donc, ce que j'ai fait, c'est de changer, modifier un petit peu la traduction et donc d'appeler le labor, labor, et d'appeler le work, travail, parce que le work, c'est pas forcément uniquement de l'œuvre, c'est du travail, et de penser qu'Arendt construisait une philosophie de l'activité dans laquelle chaque strate est la condition de la suivante. Donc, il nous faut le labeur, c'est-à-dire le travail voué à la reproduction de la vie, qui est répétitif et qui est un cycle permanent de production et de consommation immédiate, était la condition du work, c'est-à-dire du travail qui produit des biens, qui est aussi la condition, donc ces choses qui forment le monde, qui est la condition de ce qu'elle appelle l'action, qui est plutôt la politique. Et donc, en relisant Arendt, j'ai essayé de montrer que elle avait mis en lumière l'irréductibilité du labeur. Et donc, elle lui avait donné une place, elle en avait fait une forme de phénoménologie. Elle ne l'avait pas simplement méprisé ou dévalorisé comme ce qu'on opère souvent comme lecture de Arendt.
Parce que on va expliquer, puis on va entendre Arendt elle-même dans son texte « La condition de l'homme moderne », ce livre des années 1950, ou début des années 60,
58,
pardon. 58, voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, Arendt déploie ce qui se passe dans ce qu'elle appelle la vita activa, la vie active, par opposition avec la vita contemplativa, la vie de la pensée dans sa relative autonomie, même si les choses sont quand même parfois liées, mais elle distingue des domaines. Et elle nous dit, bon, évidemment, ce qu'elle veut valoriser, c'est l'action, qui souvent, dit-elle, est un impensé. Même en philosophie politique, enfin, on a tendance à la penser avec des paradigmes comme un travail ou comme une fabrication. Elle déteste cela, elle pense qu'il y a une spécificité de l'action. L'œuvre, c'est celle aussi bien de l'artisan que de l'artiste. Bon, il y a aussi de l'œuvre dans le travail. Hein. Il y a un menuisier, il est autant dans l'œuvre que dans le travail. Et le travail, alors qu'est-ce que c'est pour Arendt? Du coup, c'est vrai, on se dit, c'est pas noble comme l'action, c'est pas noble comme l'œuvre. Qu'est-ce que c'est? Comment expliqueriez-vous que ce n'est pas méprisé par Arendt?
Oui. Alors déjà, c'est vrai que les trois catégories, enfin, elle a tendance à faire des séparations, à faire des distinctions qui sont extrêmement riches, mais comme on se le disait avant l'émission avec Corinne Godard, en fait, effectivement, dans n'importe quelle activité, il y a les trois, il y a le labeur, le travail et l'action. Enfin, il suffit de penser. Enfin, l'agriculture, c'est un exemple. On crée des objets, on a des enfin, il y a toute une organisation qui est même politique. C'est pas simplement le labeur au sens de la reproduction de la vie, parce que c'est comme ça qu'elle définit le travail, oui, au sens laborieux. Le labeur, c'est ce qui est voué à la reproduction de la vie. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a intéressée, parce que c'est un travail qui est a priori dévalorisé au sens où il est répétitif, il est simplement voué à perpétuer une logique de la vie, enfin à maintenir la vie, à la prolonger. Et en ce sens-là, j'ai trouvé qu'il pouvait être rapproché de concepts féministes comme la reproduction ou le care, parce que c'est un travail qui vise à soutenir en fait le monde.
Je vous propose qu'on l'écoute. Il s'agit d'un extrait d'Arendt, extrait de La condition de l'homme moderne de 1958.
Également lié au cycle perpétuel des mouvements naturels, mais moins sévèrement imposé à l'homme par la condition de la vie humaine, il y a une seconde tâche du travail, la lutte incessante contre les processus de croissance et de déclin, par lesquels la nature envahit constamment l'artifice humain, menaçant la durabilité du monde et son aptitude à servir aux hommes. La protection et la sauvegarde du monde contre des processus naturels sont de ces tâches qui exigent l'exécution monotone de corvées quotidiennement répétées. Dans les vieilles légendes, dans les contes mythologiques, cette lutte laborieuse a souvent revêtu la grandeur des combats héroïques contre d'écrasants périls, comme dans le récit d'Hercule qui compte au nombre de ses 12 travaux le nettoyage des écuries d'Augias. Cependant, la lutte quotidienne dans laquelle le corps humain est engagé pour nettoyer le monde et pour l'empêcher de s'écrouler ressemble bien peu à de l'héroïsme. L'endurance qu'il faut pour réparer chaque matin le gâchis de la veille n'est pas du courage. Et ce qui rend l'effort pénible, ce n'est pas le danger, mais l'interminable répétition. Les travaux d'Hercule ont une chose en commun avec tous les grands exploits, ils sont uniques. Malheureusement, il n'y a que les mythiques écuries d'Augias pour rester propre une fois l'effort accompli et la tâche achevée.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
Ce texte de Hannah Arendt est lu par Jeanne Aléos de France Culture. Katia Genel, la répétition des tâches, alors c'est le thème de la propreté qu'elle prend, c'est vrai, c'est faire le ménage,
c'est
au fond le paradigme du labeur pour Arendt. Et moi, je trouve ça touchant qu'elle dise combien c'est pénible et dur, qu'il faut une forme de courage, qu'il n'est pas de l'héroïsme. Et c'est le modèle pour penser ce qu'il y a de plus dur dans le travail, au sens large, dans la société.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une dimension, une couche irréductible d'activité qui est le fait, effectivement, de maintenir la vie, de nettoyer le monde. C'est une expression qui a retenu mon attention dans ce texte. Mmh. Il y a que chez Augias que les écuries restent propres une fois lavées. Enfin, c'est le côté héroïque. Mais quand on n'est pas dans les écuries d'Augias avec Hercule, il faut toujours refaire le travail, enfin le labeur. Il faut donc lutter contre tout ce qui envahit notre espace. Il faut lutter contre la nature, il faut préserver le monde, il faut le maintenir. Donc voilà, effectivement, le paradigme, c'est un peu le nettoyage. Il faut aussi toujours répondre. Donc par rapport au travail pressé de tout à l'heure, en fait, c'est pas l'urgence temporelle, quoi qu'elle soit aussi un peu temporelle, mais c'est vraiment répondre à l'urgence des besoins. Et donc, il faut répondre à une urgence, de ce qui urge, en fait, au sens où il faut qu'on réponde dans ce type de travail qui va être de l'ordre du soin, de l'ordre de la nourriture, de l'ordre du nettoyage, du maintien du monde. Il faut répondre à une nécessité. Et voilà, ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est en fait, alors évidemment, ça peut paraître, là, elle met l'accent sur le côté négatif, mais c'est la condition nécessaire de toute autre forme de travail. On peut pas et l'illusion en fait de la philosophie, et je pense que ça peut entrer en dialogue avec ce que pensait Gortz, l'illusion de la philosophie, ça a été de penser que c'est un labeur, il faut en sortir, il faut le régler pour se consacrer à des activités plus épanouissantes, des activités qui mettent en jeu notre liberté. Et la question, donc, c'est est-ce qu'on peut trouver une forme de liberté dans le labeur ?
Alors, le caractère répétitif, c'est vrai que c'est un énorme sujet, et j'ai l'impression que c'est un autre problème que celui de l'urgence et du travail pressé. Et en même temps, ces deux problèmes ont été beaucoup liés. Je voudrais votre avis, Corinne Godard, et pour introduire cette difficile question, je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Nous les ouvriers, les cadences à la chaîne ». C'était sur France 2, diffusé en octobre 2023.
Au départ, quand j'arrive en chaîne, je voyais bien les difficultés qu'avaient les gens, mais je comprenais pas, parce que ça va lentement. Ça va pas vite, une chaîne. Ça avance tout le temps, mais ça va pas vite. Et je comprenais pas que les gens en parlent de cette façon désagréable, dans la mesure où ça n'avançait pas vite. Et brutalement, il y a la découverte, j'arrivais à un poste de travail, et là, tout d'un coup, je faisais les sièges de bagnole, et donc il y a les carcasses, donc en acier, puis t'as les tissus qui arrivent, les mousses, et faut tout assembler. Et tu t'aperçois que faut aller très vite. La chaîne avance doucement, mais il faut que le siège soit fini 2 mètres après. Donc ça va très très vite. Et là, t'es comment dire en transpiration à partir de 4 heures le matin jusqu'à 13 heures.
Vous remplissiez une feuille de production et le chef d'équipe vous calculait votre pourcentage d'activité qui a été calculé par ce qu'on appelait des techniciens qui passaient avec un chrono, qui vous chronomètrent pendant 8 heures, qui ne vous lâchent pas, qui ne vous parlent pas. Vous allez au WC, il arrête le chronomètre. Quelqu'un vous demande un renseignement, il arrête le chronomètre. Il fait des calculs qui sont propres à lui et vous détermine votre taux d'activité. Et je me souviens de ce chiffre, il fallait atteindre jour par jour 80% d'activité. Vous ne pouvez pas soutenir un taux de production tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est impossible. C'est la peur de la production, c'est la peur ouvrière.
Il s'agissait d'un ancien... Les personnes que vous entendiez étaient un ancien ouvrier de Peugeot à Sochaux et un ancien ouvrier de Michelin à Clermont-Ferrand. Donc certainement dans les années 1960-70 sont des moments de prise de conscience de l'horreur de la répétition à la chaîne. Et c'est en soi dur de répéter, Godard, je ne voulais pas l'écorcher, mais c'est aussi inévitablement un problème de vitesse insoutenable qui arrive à un moment donné, explique l'un d'eux.
Oui,
Oui, alors je trouve l'extrait sonore intéressant parce que la première personne qui parle a raison de dire que quand on regarde cette chaîne de l'extérieur, on peut avoir le sentiment qu'elle progresse, qu'elle avance lentement. Et quand on y est, quand il s'agit de faire, on se rend compte toute la difficulté d'organiser ces gestes pour que ça puisse coller dans le temps qui nous est imparti. Et il y a une espèce de dissociation du comptage de combien de temps prennent les choses dans le temps de cycle de la manière dont on les pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps de travail devient complètement dissocié du contenu de ce que nous avons à faire. Et donc, on remplit des minutes ou des minutes 30 de cycle avec des opérations qui chacune faisant tant de secondes, voire même en dessous de la seconde, jusqu'à, de manière très théorique et abstraite, occuper certains temps de cycle de manière prescriptive à plus de 100%. Parce qu'en moyenne, ça fera 80 ou 90% du temps occupé, mais certains cycles seront à 120 et puis d'autres à 70, etc. Donc c'est moyenné et finalement, la question de ce qu'on fait pendant ce temps de cycle-là devient secondaire. Et une heure vaut toujours 60 minutes, qu'elle soit occupée par un ouvrier expérimenté ou débutant, dans une vacation du matin ou de la nuit, par un homme, une femme, quelqu'un qui a un problème de santé ou pas, etc. Ce temps, ce modèle de la hâte, pour en revenir à ou ce travail pressé, se dissocie, s'échappe du contenu que nous devons réaliser. Donc toute la question centrale, c'est de savoir s'il est possible de rediscuter des temps du travail en posant l'idée que l'action précède la temporalité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on repart de la manière dont est occupé le temps pour essayer de réfléchir à son enveloppe.
Dans votre ouvrage, vous évoquez la solitude comme un des points centraux. Il est vrai que la division du travail qui a produit l'idée du travail à la chaîne, c'était que chacun soit un peu autonome dans une activité très simple, répétitive, et précisément qu'on fasse un travail collectif, mais chacun dans son coin et son activité à lui. Et au fond, c'est cette solitude au sein du collectif qui vous semble ressortir le plus, si je vous ai bien comprise,
oui.
de ces situations à la fois répétitives où finalement, d'ailleurs le but était de gagner du temps, la vitesse est d'autant plus douloureuse que c'est répétitif et qu'on se sent terriblement seul.
Cette question de la solitude ou d'individualisation dans la relation au travail et la manière de ce que ça nous fait, elle est commune à de nombreuses situations professionnelles, bien au-delà du travail sur des lignes de production. Parce que, alors évidemment, le poste peut être pensé de manière individuelle avec peu de travail collectif. On sait aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai puisque le collectif est même sollicité et prescrit. Mais ce qui se joue, c'est que même dans des situations de travail collectif, on peut vivre individuellement le fait de ne pas se sentir capable de faire face aux contraintes temporelles, d'avoir le sentiment de ne pas y arriver, ou alors d'y arriver en laissant de côté certaines formes d'éthique professionnelle. Donc on le fait au détriment d'un sentiment de faire du bon boulot ou du beau boulot. Et donc ça, c'est souvent vécu comme un échec individuel qui a des conséquences sur la santé, sur la santé psychique. Donc ça, c'est une forme ou une conséquence possible de ce travail pressé.
Céline Marty, vous pensez que quand le travail est plus varié, on ressent moins l'horreur de l'urgence permanente, de la hâte, comme dit Corinne Godard, parce que la variété permet de réaliser des sortes de talents différents. Alors certes, il y a du stress, parfois, et là souvent, mais ce n'est pas la même chose que lorsque c'est le travail répétitif dont nous venons d'avoir des paradigmes assez durs.
Alors, dans l'emploi, il peut y avoir une variété de tâches, mais l'urgence peut se rejouer aussi dans la priorisation des tâches et l'accumulation des tâches. Quand bien même il y ait de la variété en termes de format ou en termes de compétences que ça implique. Par contre, la variété à laquelle appelait André Gorz, c'était aussi la variété dans les activités de la vie. Oui. Et donc, la variété dans l'emploi, mais aussi dans l'engagement associatif, social, militant, familial, le jardinage et le labeur aussi. Et donc, cette variété-là, elle est pour Gors aussi enrichissante existentiellement parce qu'elle nous permet de développer différents intérêts. Mais par contre, au sein de l'emploi, les rythmes d'urgence peuvent se rejouer dans l'assignation de différentes tâches à faire parfois en même temps. Et donc, parfois aussi un sentiment, enfin des injonctions contradictoires, une priorisation à faire parce que le temps est quand même une ressource limitée et c'est pour ça que se joue l'urgence.
Alors on va prendre, après on va un peu vous faire dialoguer Gors, Arendt, sont-ils des mondes vraiment opposés ou y a-t-il des ponts intéressants à jeter entre eux? Mais pour évoquer un travail qui m'apparaît plus varié, par définition, puisque c'est la médecine, et c'est pas tout le temps le même geste, mais qui est terriblement en souffrance, en famine temporelle, comme dirait Hartmut Rosa, parce que il y a tout le temps des malades, et les urgences sont saturées, et il faut faire et faire encore, et très vite. Donc la médecine est un exemple très intéressant, différent, bien différent de celui du travail à la chaîne des ouvriers ou des ouvriers de Lidl dans les entrepôts que nous venons d'évoquer. Écoutez.
Bonjour madame. Vous étiez en train de faire
du cheval et je ne me rappelle plus de rien.
Et là, jusqu'à présent, vous avez fait la radio, mais vous n'avez pas fait de scanner hein, pour le moment.
Non, j'attends.
D'accord, ok, ça je vais faire.
Est-ce que je peux abuser?
En fait, on a...
Ouais,
j'essaie de trouver ça.
Mmh.
Oui, si vraiment ça fait trop mal, j'ai utilisé un autre.
Oui, oui.
C'est ça. C'est un stérile qui est pour. Faut pas faire une tâche complexe de A à Z sans être interrompu. En fait, c'est facile de s'embrouiller, quoi.
Il a quand même bien travaillé.
C'est gentil.
Enfin, je suppose, hein. Parce que j'ai pas vu, hein.
Aux urgences de Fréjus, on peut vraiment avoir... c'est très, très, très varié. Donc, c'est vraiment facile de se bourrer, quoi. C'est facile d'oublier que la personne est allergique à la pénicilline et lui mettre de la pénicilline. C'est facile de faire une inversion de patient. C'est facile de considérer qu'on a le temps alors qu'en fait, on n'avait pas le temps. Et voilà. Et après, il faut justifier la prise en charge, quoi. J'aime bien, de temps en temps. Je suis un peu stressé.
Voici, il s'agissait d'un reportage d'envoyé spécial sur France 2 d'avril 2025 qui s'intitulait « Interne, le blues des blouses blanches » et qui se passait, comme vous l'avez entendu, à l'hôpital de Fréjus. Katia Genel, est-ce que la médecine, qui est par définition une activité dévouée à l'entretien de la vie, est-ce que la médecine est finalement le prototype du labeur au sens d'Arendt?
Alors, c'est pas du tout le type d'exemple qu'elle avait en tête, parce qu'elle mettait l'accent sur la dimension de corvée et de matière corporelle, mais au sens, pas forcément au sens où il y a une médiation technique comme on la trouve dans la médecine. Mais le point commun, c'est effectivement, et c'est quelque chose qu'on a très bien vu pendant le Covid, justement, pendant la crise sanitaire, c'est que le labeur, c'est précisément un travail qu'on ne peut pas interrompre. On est sommé, on est appelé, donc c'est pressé ou urgent en ce sens que on ne peut pas ne pas répondre aux besoins ou à la nécessité qui se présente. C'est un travail pour Arendt qui est sous le registre de la nécessité, c'est-à-dire la sphère des besoins, du vital. Et il me semble que l'exemple de la médecine, c'était les travailleurs de première ligne. Le labeur qu'elle a en tête serait plutôt du côté des travailleurs de deuxième ligne, c'est-à-dire tout ce qui est entretien. Nettoyage, soins, care, qui venaient en fait en soutien à la vie, mais qui ne pouvaient pas non plus s'interrompre pendant la crise sanitaire, par exemple, par rapport à une production qui peut être ralentie, une production de biens on arrive vers la question du critère de ce qui était utile, nécessaire ou essentiel. Mais disons que le labeur, c'est vraiment un travail nécessaire au sens vital et la médecine, c'est un ensemble de compétences qui permettent d'exercer ce travail, même si évidemment ça se recoupe pas du tout dans la typologie d'Arendt.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des ponts entre les analyses d'André Gors, que Céline Martin nous a bien exposées, et celles d'Arendt, qui propose tout à fait autre chose, une réflexion sur le travail qu'on a longtemps trouvé un peu méprisante parce qu'elle est prise dans une réflexion globale sur ce qu'est la vita activa et que vous sauvez un peu en disant qu'Arendt avait beaucoup d'intérêt en vérité pour cela. D'ailleurs, elle utilise Marx à ce moment-là. Pour vous, vous qui travaillez sur l'école de Francfort, où il y a aussi un legs marxiste très fort, tout cela circule entre ces auteurs?
Je pense que André Gorz aussi a pas mal travaillé sur Arendt, en un sens. Alors, il partage une chose qui nous ramène aussi à l'école de Francfort d'une autre manière, c'est chez Arendt, j'y vois une forme de double stratégie et qui est un petit peu parfois une tension chez elle entre d'une part la reconnaissance de l'irréductibilité de ce labeur, et je pense qu'elle est présente chez Gorz, et cette autre idée qui est qu'il faut d'une façon ou d'une autre que ce labeur soit réglé pour qu'on puisse se consacrer à la vie qui est autonome, qui a chez Gorz ce serait le terme d'autonomie, mais qui a du sens, qui est, dans l'entretien qu'on a entendu de Gorz, c'était la question du sens de la vie. Et il me semble, ce que j'ai essayé de montrer en pointant à la fois les limites d'Arendt et peut-être aussi, et c'est quelque chose qu'on peut demander, les limites de Gorz, mais ce travail nécessaire, laborieux, est-il vraiment réglable? Et c'est là où je suis allée chercher les féministes des approches féministes qui, vont considérer que ce travail nécessaire et laborieux, si on considère qu'on va le régler, ça veut dire qu'on l'a délégué, à d'autres.
Et souvent à des femmes.
Et Gorz avait cette idée plutôt d'une répartition de ce travail, d'où la diversité des tâches. Mais c'est la répartition des corvées dont il parle, qui est il parlait de 15 minutes par jour, qui me semble un peu loin des chiffres en ce qui concerne le travail de reproduction ou le travail de care qui est mené par les femmes.
Y compris le travail non rémunéré, disent des féministes. Vous évoquez Lise Vogel, on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans le thème, il y en a d'autres. Il y a tout un, on dit souvent le prolétaire, il a une prolétaire à la maison et c'est en plus chaussettes. Elle a pas de salaire du tout celle-là.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est vraiment un travail domestique, c'est les écuries d'Augias qui ne sont jamais propres. C'est ça aussi. Une maisonnée. S'il faut tout recommencer, quoi, elles sont jamais propres définitivement.
C'est l'ensemble du travail reproductif, qui est peut-être sous-estimé également chez Gorz, par tous les penseurs qui mettent l'accent sur l'autonomie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a rendu possible mon autonomie de privilégié? C'est ce que John Tronto, la penseuse du Caire, appelait l'irresponsabilité des privilégiés. Tout ce travail qui sous-tend la possibilité d'une autonomie et de consacrer sa vie à des tâches qui ont un sens, qui sont épanouissantes, qui sont créatrices.
Céline Marty, qu'en pensez-vous?
Oui, Gorz est tout à fait contre l'idée d'externaliser ses tâches à des domestiques à la maison. Il critique cette société de serviteurs, comme il l'appelle, qui est promue par les gouvernements à partir des années 80 pour réduire le chômage de masse en créant de l'emploi. Au contraire, il pense qu'il y a une autonomie existentielle dans le fait de gérer ses tâches soi-même, plutôt que de les externaliser à des femmes de ménage, parce que c'est ça qui se passe. Et que pour se faire de façon équitable au sein des foyers et notamment des couples hétérosexuels, cela implique aussi de revoir l'importance qu'on donne à l'emploi, à l'activité rémunérée, puisque l'argument souvent des hommes, des maris, c'est de dire moi j'ai une grosse journée de boulot, c'est moi qui rapporte le plus gros salaire, donc c'est pas moi qui prends ça en charge. Et puis, toi, t'es à temps partiel pour t'occuper des enfants, donc tu peux bien le faire. Donc, Gorz pense qu'il faut une réduction du temps de travail pour tout le monde et qu'il faut réduire l'importance qu'on donne à l'emploi pour permettre que tout le monde soit concerné par la prise en charge des tâches domestiques. Et ce que je trouve aussi intéressant, et ça rejoint ton analyse, Cassia, sur le labeur, c'est que ça questionne aussi nos besoins et les besoins qu'on a au quotidien à satisfaire et les priorités qu'on peut faire au quotidien, puisque vous faites tous les jours le choix de ne pas rentrer chez vous avec des chaussures pleines de boue pour ne pas avoir à nettoyer derrière. Vous faites des choix en matière de choix de cuisine, d'alimentation, etc. Vous vous lancez pas dans des grands banquets tous les jours. Donc en fait, on fait des choix d'économiser nos propres forces, nos propres efforts, d'économiser ce labeur au quotidien aussi.
Et c'est bien ça pour lui ou ce n'est pas bien?
Bah oui, tout à fait. Oui. C'est à la fois une question existentielle d'autonomie, de savoir ce qu'on choisit de faire au quotidien dans la prise en charge de notre labeur comme de notre emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans ces tâches-là, on fait des choix d'économie de nos efforts, de réduction de ce temps de travail quand on peut le faire.
Et évidemment, la thèse de Gorz, c'est que tout cela ne pourra marcher que si on accepte aussi un jour de produire moins.
Tout à fait.
De produire moins, parce qu'on aura économisé davantage les forces productives, comme dirait Marx. Et malgré ce produire moins, la répartition ne sera pas problématique. Il y aura moins à répartir, mais il y aura assez.
Parce qu'il y a déjà assez. Ça, c'est ce qu'il disait à la fin de l'entretien. Il y a déjà assez de richesses produites. L'enjeu, maintenant, c'est de les répartir. C'est ce qu'on voit aussi dans les débats autour de la taxe Zucman aujourd'hui. L'enjeu, c'est pas de produire plus, mais c'est plutôt de répartir les richesses, aussi sur le plan économique. Et donc, en effet, Gore, c'est un théoricien de la décroissance. Idée de vivre mieux en produisant moins, en travaillant moins, qu'il formule dès 1972.
Donc, en étant moins pressé, globalement. Partout, tout à fait. Toutes les injonctions.
C'est aussi une façon de mettre à distance la rationalité économique et les rythmes du capitalisme qui s'imposent dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Et donc, ce que je trouve vertigineux, c'est que si Gorse dit, dès les années 70, qu'on peut produire moins, travailler moins, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, 50 ans après, où on a cessé de continuer de produire plus, de consommer plus ?
Oui, et je ne peux pas ouvrir ce débat, mais... Il y a aussi des gens qui pensent que ça ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas assez à distribuer. C'est un sujet qui existe, mais qui porterait sur l'applicabilité de la réflexion de Gorse. Mais je voudrais vous laisser le dernier mot. C'est vous qui avez écrit, Corinne Godard, un livre qui s'appelle « Le travail pressé ». Nous sommes dans une série sur l'urgence. Avons-nous oublié quelque chose ?
Oui, alors peut-être de manière articulée à ce qui a pu être dit jusqu'ici. C'est vrai que depuis le début de l'émission, on décrit un tableau assez sombre, finalement, du travail et de ses conditions autour de l'idée du travail pressé. Mais quand on s'intéresse à ce qui se passe de près à l'échelle de l'activité que j'évoquais au tout début, de ce qu'on fait un peu concrètement dans les situations professionnelles, on se rend compte que chacun, chacune ne fait pas que subir ce travail pressé et que au fil de son activité, tente de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des temps qui comptent et qui s'opposent à ce modèle de la hâte ou à cette conception d'un temps qui surpasserait et qui imposerait à toutes nos actions. On voit que parmi ces temps qui comptent, la question de pouvoir transmettre et en milieu professionnel et une activité qui est tout à fait fondamentale. Le temps de construire collectivement, nous écoutions tout à l'heure ces médecins urgentistes, on voit bien que la question de travailler avec les patients est tout à fait centrale dans leur activité. Le temps pour créer, etc. Et donc, il y a la possibilité de pouvoir faire autrement si on s'attache à regarder de près les situations professionnelles. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Morshiba, Rome wasn't built in a day. Il faut plus de jours pour construire Rome. Il faut plus de jours souvent pour faire plein de choses que nous faisons de manière pressée. Merci à toutes les trois. Corinne Godard, je rappelle que vous avez publié Le travail pressé pour une écologie des temps de travail aux éditions Les Petits Matins. Céline Marty, Découvrir Gorce, édition sociale 2025. Et puis L'écologie libertaire d'André Gorce, Démocratiser le travail, libérer le temps aux presses universitaires de France 2025. Et Katia Genel, L'oubli du labeur, Arendt et les théories féministes du travail chez Klinksic en 2025. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il interroge la notion de système. C'est le pourquoi du comment.
Pourquoi faut-il expliquer les systèmes ? L'histoire de la philosophie est en quelque sorte tiraillée entre le désir d'une explication universelle fondée sur des principes simples, ce désir qu'on peut appeler le désir de système, le désir de systématicité qui ramène l'ensemble des phénomènes à une unité sous des règles uniques et que la raison humaine peut saisir d'un côté, et de l'autre côté un retour des expériences, de l'expérience de la diversité, de l'expérience de l'altérité, de l'expérience de ce qui résiste au système et à la totalité. Du moins, en philosophie, le désir et la critique des systèmes sont-ils ou elles, en quelque sorte, explicites ? C'est un débat qui traverse toute l'histoire de la philosophie. Il y a eu, par exemple, au XVIIe siècle, un âge d'or des grands systèmes rationalistes. On pouvait dire que, Merleau-Ponty l'a expliqué de cette façon-là, que sous l'emprise de la science moderne, de la science de l'univers, qui explique tout l'univers avec les mathématiques, un livre écrit en langage mathématique, telle serait la nature, d'après Galilée, eh bien les grandes philosophies ont pensé que l'accord entre la raison et le monde pouvait permettre d'expliquer tout. Ainsi, Descartes, Spinoza, Leibniz, ce serait l'âge d'or des systèmes, après lequel, au XVIIIe siècle, au contraire, vient la critique radicale de ce qui était déjà appelé l'esprit de système. Alors, Voltaire se moque de Leibniz avec « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Ben non, tout va pas pour le mieux, cher Leibniz. Candide, lui, il a des tas d'aventures qui ne sont justifiées par rien. Il y a de l'irrationnel, du hasard, et le monde ne serait pas un grand système rationnel. Viennent ensuite les grands systèmes de les philosophies de l'histoire, avec Hegel ou Marx, et là aussi la critique d'une raison qui prétendrait déduire l'histoire humaine de quelques grands principes simples. Non, dit Merleau-Ponty, par exemple, dans les aventures de la dialectique ou dans la préface de Signe. Non, en effet, il y a une épaisseur de l'histoire, il y a du hasard, il y a de l'imprévu, il y a de l'opaque, il y a du non-sens qui échappe à la rigueur du système. Du moins, en philosophie, encore une fois, le débat sur le système est-il explicite. On peut expliquer la tentation du système, et les systèmes d'ailleurs se prêtent aussi à la plus peut-être facilement que les philosophies empiristes et apparemment non systématiques à l'explication. On aime bien expliquer le système de Leibniz, le système de Hegel, même s'ils font de la place à la diversité et au mystère. Michel Serres a montré comment le système de Leibniz était un système en droit, pour Dieu, mais pas pour nous, êtres humains, qui devons aussi nous débrouiller avec le confus, l'opaque et la liberté. Et d'inversement, les philosophies qui critiquent le système ne renoncent pas pour autant à des principes. Les grandes philosophies anti-systématiques, l'empirisme de Hume ou de Diderot, les critiques du système chez Bergson ou chez Merleau-Ponty sont elles aussi fondées sur des principes, l'important étant d'expliquer le système. Le système n'est donc pas quelque chose d'opaque en philosophie, c'est au contraire une volonté de clarté absolue. Le pire serait justement un système caché, un système du monde et surtout un système de l'action qui serait caché. C'est cela dont nous avons peur aujourd'hui. Il faut donc d'abord, face à toute accusation de systématicité ou au contraire revendication d'anti-systématicité, il faut, oui, il faut de la philosophie, il faut expliquer ce qui est système et ce qui fait système, pour le meilleur et pour le pire.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kera et Nicolas Berger, avec à la technique Dalia. Merci à toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin qui a particulièrement préparé cette émission, et puis Carla Michel, Corinne Amar, Victoire Mellet et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.